Nous retrouvons à présent l'émission Parcours présentée par Virginia Crespo.
Bonjour, Canal Académie vous invite à suivre Parcours, le parcours de Claude Dulon-Sainteny. Aujourd'hui, Claude Dulon-Sainteny, membre de l'Institut, élu le 4 décembre 1995 dans la section Histoire et Géographie au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Claude Dulon-Sainteny, bonjour.
Bonjour.
Combien de femmes, Claude Dulon-Sainteny, font partie de cette Académie des sciences morales et politiques?
Pour le moment, nous sommes deux.
Vous avez été, je crois, la première femme à avoir été élue dans cette académie.
Non, il y a eu, je crois, Madame Bastide, une grande juriste. C'est à elle la première il y a déjà un certain nombre d'années.
Alors, est-ce que ce nombre de deux personnes féminines correspond à un quota satisfaisant, selon vous?
Non, mais je ne crois pas que les messieurs qui nous entourent soient hostiles à une augmentation du quota. Il n'y a pas de quota. Je crois qu'ils se rendent compte qu'il faut marcher, qu'il faut qu'ils marchent avec leur temps.
Claude Dulon est votre nom de jeune fille.
Oui.
C'est d'ailleurs le nom sous lequel vous avez signé plusieurs de vos ouvrages historiques. Alors, abordons, si vous le permettez, pour commencer cette émission, le côté Dulon de votre personnalité. Vous êtes né où, Claude Dulon?
Je suis né à Limoges par un pur hasard, parce que mon père avait un job à Limoges à ce moment-là, mais nous n'avions aucun lien avec la région.
Né dans une famille nombreuse?
Non, j'étais fille unique. Il y a eu, je crois, un enfant avant moi, mais qui n'a pas vécu. J'étais fille unique. Et je ne peux pas dire que j'ai gardé un souvenir merveilleux de mon enfance, parce que ce n'est pas drôle d'être fille unique. Et puis mes parents ont divorcé quand j'étais encore assez jeune. Alors j'ai eu cette enfance des enfants de divorcés qui sont un peu ballottés entre les deux.
Qui jouait le rôle du confident, de la confidente?
Eh bien, c'était plutôt ma mère. C'était plutôt ma mère.
Vous aimiez partager vos jeux avec des enfants de votre âge?
Oui, bien sûr. Seulement, fallait-il les trouver? Les quelques cousins que j'avais n'habitaient pas Paris. Alors, je les retrouvais l'été, ce qui était très agréable. Et puis, j'ai été mise en pension jeune, à 11 ans. Alors là, j'ai eu les camarades de pension. Évidemment, on est très proches, puisqu'on est tout enfermés ensemble. Enfin, c'était pas le bagne, n'exagérons pas.
Quels étaient vos centres d'intérêt à cette époque-là?
J'étais, je crois, une enfant réservée. Je lisais énormément. Alors, en pension, comme il y a l'extinction des lumières, vous savez, à une heure, généralement c'est 8h30 ou 9h. Alors, nous lisions avec des lampes de poche sous les draps. Des romans, tout ce qui nous tombait sous la main.
Vous aimiez avoir une grande complicité avec des garçons, des filles de votre âge?
Ben, les garçons, on en voyait très peu puisque j'étais dans un pensionnat de jeunes filles. Et comme à l'époque, en plus, on faisait porter des chapeaux d'uniforme, les garçons du collège de Saint-Germain, on les convoyait, hurlaient de rire quand ils nous voyaient arriver d'un autre côté de la forêt à cause de nos chapeaux.
Vous aimiez l'étude?
Oui. Alors, j'aimais l'étude, sauf les maths où je n'ai jamais été bonne, mais j'ai été la bonne petite élève pour tout le reste.
Des rencontres, des influences déterminantes pour la suite de votre parcours au cours de cette époque?
Alors, il y en a une, mais plus tard, vers 14-15 ans, j'ai eu un professeur d'histoire, j'ai plaisir à dire son nom, la pauvre, elle est morte depuis si longtemps, qui était une béarnaise, qui s'appelait Mademoiselle Milox, et qui avait une façon de présenter l'histoire tout à fait inattendue, imagée. On ne pouvait pas ne pas être captivé par la façon dont elle racontait l'histoire. Et c'est elle, un jour, c'était l'époque où les professeurs avaient du temps à donner aux élèves et on allait leur parler à la fin des classes. Et un jour, elle m'a dit « Mais écoutez, vous aimez l'histoire et vous êtes bonne en latin. Pourquoi vous ne feriez pas plus tard l'école des Chartes ?» Je ne savais même pas ce que c'était.
Et lorsque vous avez découvert cette école des Chartes, quelle a été votre réaction? Comment vous y êtes-vous senti?
Elle a été double. D'abord, avant de faire l'école des Chartes, il fallait faire une prépa, comme on dit. Alors ça, c'était très amusant. On faisait une espèce d'hippocagne à Henri IV. Et là, on était mélangés, garçons-filles, des garçons très intelligents, des professeurs très intelligents. C'était une atmosphère, pour moi, ça a été absolument merveilleux, cette année d'Henri IV. Et puis, maintenant, c'est différent parce que la préparation charte est dissociée de la préparation à normale sup. Et puis j'ai été reçue quand je me suis présentée aux chartes. Et là, je dois dire, il y a eu une petite déception car l'atmosphère était très différente. L'atmosphère était très austère, les professeurs étaient très impressionnants, c'était... Vous savez, il y a un demi-siècle de ça et la différence est fantastique dans le comportement, dans l'habillement, dans... Et ces messieurs m'impressionnaient un peu, les professeurs. Et c'était une école où on nous tenait serrés parce que l'histoire est une science exacte, contrairement à ce qu'on croit. Alors, on ne nous laissait pas divaguer, on ne nous laissait pas raconter l'histoire et on ne nous racontait pas l'histoire. On nous faisait déchiffrer des textes. Et ça, c'est austère.
Donc, le déclic par rapport à cette passion, par rapport à l'histoire, vous est venu par l'intermédiaire de ce professeur.
Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai plaisir à citer son nom. C'était, on a tous, hein, je crois, eu dans sa vie un professeur préféré, mais cette femme m'a ouvert des horizons, vraiment.
Et vous n'avez jamais regretté ce choix ?
Non. C'est-à-dire que j'ai lâché un peu, une fois sortie des chartes, je me suis un peu amusée, distraite, comme on fait quand on est jeune. J'ai pas adopté un métier tout de suite. Et j'ai lâché les chartes pour... C'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés. La vie était très gaie pour les jeunes. J'ai voyagé. J'étais étudiante aux États-Unis, en Angleterre. J'ai pas pris mon parti tout de suite de choisir un métier. Et malheureusement, je me suis rendu compte que les métiers... que m'offrait le diplôme d'archiviste paléographe, parce que c'est ça qu'on est quand on sort des chartes, n'étaient pas des métiers très gais. C'était bibliothécaire ou archiviste. Et si ça avait été seulement faire de la recherche pour soi-même, mais pas du tout, il y avait aussi les lecteurs qu'il fallait satisfaire. Et ça, c'était franchement très ennuyeux d'être à un petit bureau et d'écouter les lecteurs venir vous demander comment faire pour obtenir tel ou tel document, tel ou tel bouquin. C'est complètement différent maintenant, parce qu'il y a Internet. Et tout est électronique, ils cherchent même, vous comprenez. Et j'ai pas fait la carrière, finalement. J'ai pas fait la carrière, j'ai lâché. J'ai été bibliothécaire, mais dans le privé.
Pendant combien de temps ?
Institution privée. Oh, pendant 7-8 ans tout de même. Mais ça, c'était très agréable parce qu'on m'avait dit vous vous occupez uniquement des manuscrits et ce qui est intéressant, vous le publiez à nos frais. Alors, ça, c'était le rêve. Je pouvais pas rêver mieux.
Vous écrivez, Claude Hulon-Saint-Denis, le métier d'historien s'apparente à celui du détective. Rien de plus excitant, mais toutes les enquêtes n'aboutissent pas. Rien de plus frustrant, écrivez-vous. Et dans le meilleur des cas, la récompense est mince. Comment faire comprendre au public la somme de recherche qui sous-tend une seule page, parfois un seul paragraphe d'un seul volume ? Allez aux sources, alors, ce fameux « allez aux sources ».
C'était nos professeurs des chartes qui répétaient ça. Et j'étais tellement troublée qu'en rentrant, je disais à ma mère, j'avais 18 ans à peine, « Mais qu'est-ce que ça veut dire aller aux sources ?» Et puis j'ai fini par comprendre, ne pas se contenter de ce qui est imprimé, mais vérifier d'abord ce qui est imprimé. Et puis, c'est vrai, il y a toujours une source d'un événement, même une anecdote que vous entendez, elle vient de quelque part. Et il faut essayer de trouver d'où viennent les choses. Et vous avez des surprises, car souvent, presque toujours, ça n'est pas comme on vous l'a raconté.
Je continue de vous lire, Claude Hulon-Saint-Denis. C'est qu'il faut établir l'authenticité, comme vous le disiez, d'un document avant de l'utiliser. La règle a l'air simple, elle semble aller de soi, et pourtant, elle est tous les jours violée parce qu'elle exige d'abord une formation spécifique. Il faut tout vérifier, jusqu'au filigrane du papier qui sert de support au document que vous déchiffrez. Alors, vous avez un peu la dent dure, vous dites les amateurs qui croient qu'être historien, c'est raconter l'histoire. Se soucient bien peu de tout cela, ils veulent faire vite et gros pour allécher les médias.
Je peux vous dire un mot de cette histoire du filigrane parce que c'est très amusant. J'avais découvert des lettres d'Anne d'Autriche, une de mes héroïnes à Mazarin, et ces lettres m'avaient paru témoigner d'un attachement vraiment extraordinaire. Je parle de lettres autographes, n'est-ce pas ? Il n'en reste que 12. Et j'étais tout ému par ma trouvaille et je me rendais compte qu'on n'avait pas bien étudié ces lettres. Et alors, passe une vieille demoiselle, chartiste, c'était à la Bibliothèque Nationale, chartiste comme moi, mais beaucoup plus âgée. Elle me dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Je lui explique. Elle prend le manuscrit, elle le met dans le jour de la fenêtre, elle me dit cette phrase qui m'a anéanti. « Avez-vous identifié le filigrane ?» C'est de là que vient cette histoire. Parce qu'effectivement, si le filigrane était du 19e siècle, les lettres étaient des faux et tout ce que j'avais échafaudé ne méritait même pas d'être publié.
Alors ce travail laborieux, quel côté passionnant avait-il à vos yeux pour le poursuivre ?
Oh ben la découverte, parce que vous êtes quand même récompensé, vous découvrez des choses que les autres n'ont pas découvert. Et souvent, hélas, vous découvrez les erreurs des autres.
Alors, vous avez tout de même omis de nous préciser que pendant ces années de formation, ces années d'enfance, vous aviez tout de même un petit péché mignon, celui d'écrire. Et d'écrire non pas des romans historiques, puisque vous étiez toute jeune à l'époque, mais des romans, de simples romans, des nouvelles, je crois.
Alors ça, oui, c'est dans la période où, après les chartes, je me suis dissipée. Je me suis dit, je vais pas m'occuper d'histoire, j'ai envie de voir le monde. Et alors, c'était une époque très gaie, c'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés, et on avait l'impression de découvrir des tas de choses. Et là, j'ai fait la connaissance de jeunes écrivains, qui sont aujourd'hui des vieux écrivains, qui étaient Roger Nimier, Michel Déon, il y en avait un plus âgé aussi qui était très amusant, André Frégnaud, et ils étaient tous follement amusants et follement drôles. Et alors, il y avait une petite revue, Jacques Laurent aussi, ou Cécile Saint-Laurent, avait fondé une petite revue qui s'appelait La Parisienne, et qui a eu son heure de gloire parce qu'elle était beaucoup plus gaie que les autres, et j'ai publié alors plusieurs nouvelles dans La Parisienne.
Et donc, cette expérience s'est arrêtée là.
Elle s'est arrêtée là parce que j'ai fait un roman, je l'ai soumis à un éditeur et il m'a dit qu'il ne trouvait pas ça très bon. Alors je me suis dit, c'est pas la peine que je m'obstine. Et je me suis remise à l'histoire.
Nous marquons une pause musicale, Claude Dulon-Saint-Denis. Grâce à vous, nous allons écouter un extrait de Requiem en ré mineur, Cochel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. Parcours sur Canal Académie reçoit aujourd'hui Claude Dulon-Saint-Denis, historienne, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste du XVIIe siècle français et auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la vie quotidienne des femmes au grand siècle, sur la vie de Marie Mancini, la fortune de Mazarin, Anne d'Autriche, le mariage du roi Soleil, l'amour au XVIIe siècle, les amoureuses du grand siècle, un Mazarin est paru chez Perrin dernièrement, mais aussi la vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle. Et puis, Asie jaune et Asie rouge. Et si vous le voulez bien, Claude Dulon-Saint-Denis, nous allons rester sur ce continent de l'Asie qui va correspondre à tout un parcours, à toute une partie de votre histoire.
Je le rencontrai à la fin de 1951, dans un ascenseur. Nous nous rendions, chacun de notre côté, à la réception de mariage d'une commune relation. C'était un ascenseur hydraulique, comme il y en avait encore dans les immeubles de la plaine Monceau, qui glissait avec une infinie lenteur sur une colonne luisante de graisse. Et la cabine, vitrée sur trois faces, s'arrêtait à mi-corps. Impossible d'échapper au regard. J'étais timide, cette ascension me fut un supplice. Je me sentais ridicule, exposé à la vue de tous comme un objet de vitrine et coiffé que j'étais d'une toque de velours noir bordée d'hermine. Même les jeunes filles, en ce temps-là, portaient encore, à l'occasion, des chapeaux. Un monsieur, qui montait à pied l'escalier, fit halte sur une marche à seule fin de me regarder. Mais ce n'était pas, semblait-il, pour s'amuser du spectacle. Je ne résistais pas à le regarder aussi, plus furtivement. Son extraordinaire beauté, simple et virile, n'était pas de celle qu'on rencontre dans les cocktails parisiens. Il se fit présenter, Jean Saint-Denis, sans plus, puis me reconduisit en voiture jusque chez mes parents, où j'habitais.
Claude Dulon-Saint-Denis, vous venez de nous faire l'amitié de lire la première page de votre ouvrage « La dernière pagode » paru chez Grasset. Alors racontez-nous, il s'agit d'une rencontre très importante dans votre vie.
Oui, puisque nous nous sommes mariés au bout de quelques temps. Et que ça a évidemment, j'ai dit adieu un petit peu aux recherches historiques pour découvrir un continent évidemment fascinant, mais en pleine ébullition alors, l'Asie.
Parce que Jean Saint-Denis était chargé de mission au Vietnam.
Il était un peu un spécialiste du Vietnam. Il connaissait déjà le pays et c'était à la fin de la guerre d'Indochine et il était chargé de rétablir les relations entre la France et le Nord-Vietnam qui étaient tenues par Ho Chi Minh et son gouvernement. Enfin là, nous bousculons un peu la chronologie, mais on ne va pas raconter tout en détail.
Oui, alors vous écrivez, c'était donc en 1956, j'arrivais à Hanoï, jeune mariée,
c'est ça,
ignorant tout d'Extrême-Orient et n'ayant jamais pénétré dans un pays communiste. Et donc vous faites là la connaissance d'un personnage et qui vous a surprise par son côté clownesque, vous employez même l'expression. Et si vous pouviez nous raconter l'anecdote alors de cette rencontre avec Ho Chi Minh.
Eh bien, ça s'est entouré d'un certain mystère, comme les Asiatiques aiment bien. On nous a dit que nous étions presque à la descente d'avion, que nous étions invités à dîner au palais. Palais, hélas, qui était l'ancien palais de nos gouverneurs. Par le Premier ministre, c'est-à-dire par Pham Van Dong et non pas par Ho Chi Minh. Alors, nous arrivons, il faisait nuit, personne, un jardin très sombre et Pham Van Dong tout seul. Dans un fauteuil, très aimable, enfin, personne d'autre, nous deux et Pham Van Dong. Inutile de vous dire que la conversation était un peu languissante, moi je ne disais pas un mot, et je me demandais même quand est-ce que ça va finir, parce que, etc. Enfin, heureusement, tous les Vietnamiens d'un certain niveau à ce moment-là parlaient merveilleusement français. Et je me disais, mais pourquoi on traîne à table? Le boy avait disparu. Et le boy avait disparu par un couloir qui était dans cette pièce, dans cette salle à manger. Et tout d'un coup, ce couloir, ce rideau fermant le couloir s'est soulevé à demi. Et j'ai entendu cette chose incroyable. Coucou, c'était Ho Chi Minh. Voilà comment j'ai connu Ho Chi Minh. Tout ça avait dû être soigneusement médité, naturellement. Mais il est arrivé, alors... comme vous l'avez vu sur les photos, la vareuse froissée, le pantalon tire-bouchonné, les pieds dans les spartiates, la barbiche et une petite canne. C'était tout à fait saisissant, parlant lui aussi un français parlé. Mais ça a été surtout le départ qui a été extraordinaire. Alors, on a dit que des banalités, mais enfin... Il avait voulu montrer en venant qu'il reprenait le contact et qu'il entendait être aimable avec la France. Moi, muette pendant tout le dîner, j'écoutais ces messieurs. Et puis, au moment du départ, tout le monde se lève et tout d'un coup, Ho Chi Minh s'adresse à moi et me dit « Est-ce que vous aimez les fruits de notre pays ?» Je réponds naturellement « Beaucoup, monsieur le président. » Alors tenez, me dit-il, emportez ceci. Et il me verse dans les mains le reste des fruits qu'il y avait dans le compotier que le boy avait laissé sur la table. Je peux vous assurer que ça a été un effort que de descendre dans la nuit l'escalier du palais sans laisser tomber le moindre des fruits tropicaux qu'il m'avait offerts. C'était très asiatique, ça.
Et donc, grâce à cette anecdote, vous soulignez le côté comédien de
oui,
ce personnage.
C'était très comédien, ce qui rendait certainement les rapports politiques extrêmement difficiles, parce qu'il fallait savoir quand il était sincère.
Plusieurs personnalités
De Ho Chi Minh ?
Oui.
Oui, n'est-ce pas ? Il était...
Un homme aux identités multiples.
Oui, un homme aux identités multiples, en sachant tout de même qu'il croyait très fermement au communisme. Il avait été converti dans sa jeunesse et c'était cette époque des premiers grands noms du communisme, si vous voulez, Mao, tout ça. Il était persuadé et sincèrement que ça apporterait le bonheur des peuples. Il n'y avait aucun doute sur son appartenance, n'est-ce pas ? Mais en même temps, c'était un homme intelligent et il savait que ça serait très difficile de tenir le Vietnam si les Français partaient trop vite.
Vous rapportez ces propos, arracher l'indépendance à une puissance comme la France est une tâche formidable qu'on ne peut accomplir sans aide extérieure et pas nécessairement une aide en armes. On ne gagne pas l'indépendance en jetant des bombes et par des actes de ce type. Ce fut l'erreur que les premiers révolutionnaires ont commise. On gagne l'indépendance en s'organisant, en faisant de la propagande, en se formant, en se disciplinant. On a aussi besoin d'une foi, d'un évangile, d'une analyse pratique et on peut même parler d'une Bible. Et lui, c'est le marxisme-léninisme.
Alors, le marxisme lui a donné cette Bible. C'est extraordinaire, mais il a été converti par ça. Vous savez, il y avait toujours eu des... Ça n'avait jamais été très calme, la colonisation française en Indochine. Il y avait des groupuscules. Et il a été exilé, d'ailleurs. Et il a été en Chine, il a été à Moscou, il a été pris en main. Et seulement... À la différence d'autres communistes que j'ai rencontrés, par exemple les Russes de cette grande époque du communisme qui était vraiment, qui avait l'air de brut, il faut bien dire, lui était assez charmeur, c'est vrai. Il avait gardé ce côté asiatique, fin, lettré, et puis la culture française l'avait marqué. On n'avait pas du tout l'impression d'avoir affaire à une brute soviétique. Vous voyez, comme on en a connu, pas vous, vous êtes trop jeune, mais dans les débuts.
Donc les négociations entre Ho Chi Minh et votre époux, Jean Saint-Denis, ont duré près de 6 mois et 2 nuits. C'était des négociations qui étaient menées la nuit ?
Oui, il y a deux temps différents, n'est-ce pas ? Là, moi, ce que j'ai décrit, c'est la seconde mission de mon mari en Indochine. Mais mon mari avait déjà été une première, avant d'être mon mari, avait été une première fois comme tout jeune officier en Indochine. Et il avait eu des contacts avec Ho Chi Minh à ce moment-là, sur ordre bien sûr, dans l'espoir d'éviter la guerre d'Indochine. Moi je n'ai connu que la période d'après la guerre d'Indochine.
Donc dans les années 1954 ?
Moi, je n'ai connu que la période 54-56. Mais mon mari, qui était plus âgé que moi, avait été déjà en Indochine en 45-46-47.
Voilà. Et c'est à ce moment, en 46, que Leclerc a télégraphié à Paris qu'il fallait aller jusqu'au bout même du mot « indépendance ».
Leclerc a été d'un énorme appui pour mon mari à l'époque, qui était un jeune homme pas encore connu, tandis que Leclerc était déjà auréolé de toute sa gloire. Et il a expliqué la situation à Leclerc, mon mari a expliqué la situation là, qui a tout de suite compris qu'il ne pouvait pas faire une guerre de jungle, car une guerre de jungle, on la perd toujours. Et Leclerc a écrit une très belle lettre d'ailleurs à Paris en disant « Je n'ai aucune attache particulière avec M. Saint-Denis, ce que je dis c'est la pure vérité, je crois qu'il a raison, il faut traiter, nous ne pouvons pas nous lancer dans une guerre d'Indochine. » On s'y est quand même lancé, vous avez vu comment ça a fini, hélas.
Et votre époux, à Hanoï, a vu sa voiture sauter sur une mine en 1946.
Ah bah oui, c'était le début de la guerre. Après la rupture des négociations, voyant que ça ne marchait pas, les meneurs, dirons, avaient truffé la mine la ville de Mines. Et en effet, il a été la première victime. Il a été très blessé, très grièvement blessé à ce moment-là. Ça, Ho Chi Minh le savait très bien, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il... Il était aimable à la seconde mission.
Mais vous-même, Claude Dulong-Saint-Denis, dans cette atmosphère de découverte d'un continent, est-ce que vous ne ressentiez pas toutes ces tensions? Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Eh bien, naturellement, c'était une vie très resserrée. Si vous voulez, les Vietnamiens gouvernementaux faisaient les aimables, puisque nous étions la seule puissance non communiste à être représentée à Hanoï. En même temps, ça les flattait un peu. Mais en réalité, ils ne renonçaient pas à établir un régime communiste au Vietnam. Donc, toute la question était de savoir ce qu'ils voudraient bien garder de la France. Ils prétendaient vouloir garder des industriels, mais en fait, il y avait cette police qui rendait les choses très difficiles. C'était au petit niveau que c'était difficile. Les chefs, les ministres disaient « il faut que vous restiez », mais à la base, par exemple, il fallait un laissez-passer pour tout, pour aller se promener le dimanche, alors il fallait avoir les nerfs très solides pour les gens qui voulaient bien venir travailler au Nord-Vietnam.
Donc un double discours.
Oui. Un double discours. Et peut-être, si nous avions pu rester, ça aurait été mieux. Mais vous savez, l'Indochine était divisée en deux, vous vous en souvenez. Et en tout cas, aucune des parties de l'Indochine, le Nord et le Sud, n'acceptait d'être ainsi divisée. Je ne crois pas qu'on pouvait éviter une seconde guerre d'Indochine. Ce qui était en jeu dans la partie 56 dont nous parlons, c'était simplement... Est-ce qu'on pouvait maintenir une présence française au nord Vietnam, c'est-à-dire dans la partie Ho Chi Minh, puisque le reste, peu à peu, c'est les Américains qui ont pris toutes les commandes dans le sud. Et vous avez vu comment ça a fini aussi, ce qui prouve que la partie était très dure à jouer.
Claude Dulong-Saint-Denis, pourriez-vous nous rappeler le parcours de votre époux, Jean Saint-Denis, dans les négociations qu'il a dû mener au Vietnam?
Oui, il y a eu deux époques distantes de plusieurs années. Il a été le premier officier français, donc il était tout jeune à l'époque, qui en 1945 a pu remettre le pied en Indochine. Car ce que les Français ne réalisaient pas, c'est que l'Indochine était déjà quasi perdue. Elle était occupée par les Japonais, il y avait les révolutionnaires qui jouaient leur jeu, les Américains étaient décidés à ce que nous ne remettons pied en Indochine. Roosevelt a joué absolument contre nous, et avec quelques compagnons... Il a pu remettre pied en Indochine. C'est pour ça qu'il a été sur place, bombardé chef de cette délégation et qu'il a négocié déjà avec Ho Chi Minh dans l'espoir d'éviter la guerre. C'est pour ça qu'il y avait une sorte de lien entre eux.
Nous retournons vers le Requiem en ré mineur, Köchel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. Parcours reçoit aujourd'hui, pour vous, sur Canal Académie, Claude Dulon-Saint-Denis, historienne, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste notamment du XVIIe siècle français. Et avant le grand départ, Ho Chi Minh s'adresse à vous. Cher ami, je viens d'apprendre que vous allez rentrer en France. Je vous envoie mes vœux de bon voyage et de bonne santé. Je suis sûr que, comme moi, vous regrettez profondément que notre travail commun pour la paix soit démoli par cette guerre fratricide. Je vous connais assez pour vous dire que vous n'êtes pas responsable de cette politique de force et de reconquête. C'est pourquoi je tiens à vous répéter que, malgré ce qu'il est arrivé, vous et moi, nous restons amis. Et je peux vous affirmer que nos deux peuples aussi restent amis.
Oui,
ce sont des mots qui résonnent comment en vous, par rapport au climat que vous avez vécu sur place?
Ben, il écrivait ça après la blessure de mon mari, et il savait très bien que la blessure de mon mari venait des mines que ces hommes avaient mises un peu partout dans Hanoï. Non, mais je crois qu'il a voulu la paix. Je crois que s'il avait pu avoir, entendons-nous, il y a deux choses différentes. Il voulait l'Indochine, Ho Chi Minh. Ça, il n'a jamais varié. Mais s'il avait pu l'avoir sans combattre, il aurait été très content de l'avoir sans combattre. Mais à côté de lui, il y avait quelqu'un qui voulait la guerre, il y avait quelqu'un qui nous détestait vraiment, c'était Giap, le général Giap.
Vous vous êtes senti en insécurité?
Moi, non, parce que je n'ai pas connu cette période. Moi, je ne suis allée qu'après coup, en 56. Alors, je ne me suis pas senti là en insécurité.
Vous dites, en nous confiant dans ce livre, La dernière pagode, avoir porté votre regard sur ces événements, le regard d'une femme à la fois éblouie, amusée, mélancolique, angoissée. Alors, essayons de décliner ces adjectifs, éblouie, amusée par une culture nouvelle.
Complètement, des paysages, une culture complète. Le charme du peuple, ce sont des gens tout à fait charmants, les Vietnamiens en eux-mêmes.
Vous aviez des rapports proches?
Oh, c'était pas très facile déjà. On avait des rapports avec quelques commerçants. Et puis on voyait comme ils avaient bien assimilé la langue et la culture française. Et puis c'est un peuple distingué, fin. Les femmes sont jolies. C'est pas du tout un peuple lourdeau, pas du tout. Ils sont très séduisants comme personnages.
Vous étiez toute jeune à
oui,
cette époque-là.
Oui, j'étais toute jeune.
25 ans.
Oui, oui.
Et donc, mélancolique et angoissée.
Ah ben, angoissée parce que c'était quand même la fin d'un monde. Vous savez, la fin du colonialisme, vous êtes jeune, mais ça représentait pour tous les peuples occidentaux une chose dramatique. Les Anglais s'en sont pas trop mal tirés parce qu'ils ont lâché l'Inde et ils ont évité le communisme en Inde. Mais ils n'auraient pas pu garder, ils n'auraient pas pu faire la guerre, parce que l'Inde, c'était beaucoup plus grand que l'Indochine, ils auraient été battus tout de suite, alors.
Alors, en accompagnant dans ces différentes missions votre époux, Jean Saint-Denis, quel sentiment l'historienne que vous étiez a éprouvé en vivant de si près une page d'histoire contemporaine? Est-ce que vous...
Ah ben justement, on voyait l'histoire en train de se faire ou de se défaire, et on se rendait compte d'abord que la première impression, c'est que les gens qui n'étaient pas sur place ne comprenaient absolument pas le problème. Il faut être témoin des choses. C'est pour ça que c'est la prétention d'écrire de l'histoire et qu'il faut vraiment aller aux sources. Et en France, les gens ne comprenaient pas du tout ce qui se passait au Vietnam. Pas du tout. Ça me frappait chaque fois que je revenais.
Donc c'était un constat d'historienne, mais vibrant de
mais
choses
oui,
que
vibrant
que
de la réalité,
de
que
la
pour
réalité.
Une fois, je me trouvais au cœur d'une situation historique et je me rendais compte que c'était presque impossible de faire comprendre à Paris ce qui allait se passer. Et en effet, on n'a pas compris, puisqu'on a fait cette guerre abominable et sans avoir les atouts. Je vais dire une chose atroce, mais si on fait la guerre, il faut au moins la gagner. Or, on ne peut pas gagner une guerre dans la jungle. C'est pas possible. Il n'y a que Leclerc qui l'a compris.
Changeons de page d'histoire.
Oui.
Revenons à une période qui vous est très chère, le grand siècle en France. Donc Louis XIII, Louis XIV. Vous citez une phrase de Corneille. Le trône met une âme au-dessus des tendresses. C'est ce que vous avez éprouvé en côtoyant ces grands personnages de l'histoire de France. Une phrase assez dure.
Le trône met une âme au-dessus des tendresses. Oui, c'est très joli. C'est dans Bérénice. Non, c'est pas vrai du tout. Le trône ne met pas une âme au-dessus des tendresses. On le voit tous les jours. Et j'avoue que je suis très choquée par les mariages actuels des princes. Je trouve qu'ils devraient épouser des princesses, comme ça se faisait autrefois.
Le fait remarquable, c'est que votre écriture, l'écriture à travers laquelle vous évoquez tous ces personnages qui appartiennent à un siècle différent du nôtre, nous fait presque oublier notre époque. Vous nous transposez à leur époque. Si bien que l'un d'entre eux peut prendre la parole avec une citation historique, etc., elle ne nous apparaît pas désuète, comme venant d'ailleurs. Nous sommes dans le siècle, nous ne sommes pas dépaysés. Et quel est votre secret ?
Vous parlez du XVIIe siècle.
Tout à fait, tout à fait.
Ben, peut-être qu'à force de lire des auteurs du XVIIe siècle, j'ai appris un peu à m'exprimer comme eux, qui avaient un grand souci de clarté. C'est le XVIIe siècle qui a fixé la langue française, vous savez, avec Vaugelas et d'autres. Et puis, c'est vraiment le siècle que je préfère. Je trouve que la France a atteint un sommet, là. Alors peut-être je me suis imprégnée de ce style.
C'est un mimétisme qui s'est opéré, peut-être.
Oui, oui. Et puis l'école des chartes a joué un petit rôle aussi en nous exigeant toujours beaucoup de clarté dans ce que nous écrivions. Mais je n'écris pas vite, vous savez, je me donne du mal. Je barre, je change. Quelquefois encore, je me dis, tiens, j'aurais dû écrire ça autrement.
Alors, comment se déroule le travail de l'historienne ? C'est un travail d'abord de recherche, des documents.
Ben alors, si on fait un livre d'histoire pure, ça, c'était l'Indochine, c'était un livre de souvenirs, n'est-ce pas ? Alors là, il faut une très longue maturation, vous savez. Il faut vraiment aller aux sources. Même, tenez, je prends un personnage très connu dont je me suis occupé, Marie Mancini. Marie Mancini, vous êtes roi et je pars, tout ça, c'est archi connu. Eh bien, je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un a pensé avoir les sources qu'il pouvait y avoir en Italie, puisque finalement Louis XIV ne l'a pas épousée et qu'elle a épousé un prince italien. Bon, bah personne n'y avait pensé. Alors je suis allé au Palais Colonna, à Rome, avec toutes les introductions nécessaires. Et là, il y avait cinq, ça c'était une plus grande joie de ma vie, il y avait cinq cartons de documents poussiéreux, inédits, qui étaient des lettres d'elle ou à elle que personne n'avait jamais vues.
C'est formidable, c'est un trésor.
Ça, c'est rare quand ça arrive. C'est rare. Et il y avait des lettres merveilleuses. Alors du coup, et après, il s'est passé une chose très... J'étais tellement contente d'avoir trouvé ce trésor que j'ai accepté, j'ai dit à l'éditeur, oui, je fais Marie Mancini, puisqu'il y a des choses inédites à dire. Et au bout du livre, après avoir travaillé, lu toutes ces lettres, recopié toutes ces lettres, je me suis découvert qu'en tant que personnage, elle n'était pas tellement intéressante.
Ah bon, c'est votre découverte ?
Oui, c'est un personnage romanesque, charmant, et puis enfin, elle a ému le cœur de Louis XIV, mais elle a assez mal dirigé sa vie.
Un autre faible aussi pour un autre personnage, un petit faible aussi pour un autre personnage, pour Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII et puis mère de Louis XIV. Donc.
Alors Anne d'Autriche, ça c'est tout à fait différent parce qu'il y a une dimension politique. Et l'énigme au départ, c'était comment cette femme, d'abord espagnole, a pu si bien servir les intérêts de la France quand elle a été régente. Car il faut savoir qu'elle a mis très longtemps à devenir mère, ce qui pour une reine est capital, n'est-ce pas ? Une reine qui ne donne pas d'héritier au trône est déconsidérée. Il y avait ça. En plus, elle était sous la tutelle du terrible Richelieu. Et elle continuait, bien qu'étant reine de France, à correspondre avec son pays, l'Espagne, alors même que l'Espagne et la France étaient en guerre. Donc, elle a été mal vue dans la première partie de sa vie. Et quand Louis XIII et Richelieu sont morts presque en même temps, les Français se sont dit « Maintenant, on est tranquille avec une reine espagnole et qui a montré la sympathie qu'il avait pour l'Espagne et l'horreur qu'elle avait de la guerre. On est tranquille, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de cardinal ministre, on va se réconcilier avec l'Espagne et, si j'ose dire, à nous la belle vie. » Et stupeur, c'est le contraire qui s'est produit. On a continué la guerre contre l'Espagne jusqu'à à la victoire. Et il y a eu un second cardinal ministre, Mazarin.
Nous reprenons l'évocation d'Anne d'Autriche et de Mazarin dans un instant. Le temps de nous plonger dans l'univers wagnérien grâce à un extrait du célèbre Tristan et Isolde. Parcours reçoit aujourd'hui pour vous, sur Canal Académie, Claude Dulon-Saint-Denis, historienne, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques. Claude Dulon-Saint-Denis, pour continuer d'évoquer cette grande partie de l'histoire de France à travers le personnage d'Anne d'Autriche, nous pourrions rappeler aux auditeurs qu'Anne d'Autriche est ce personnage des Trois Mousquetaires, entouré donc de deux cardinaux, mais l'un ennemi et l'autre ami, voire même très ami.
Tout le problème est là. J'y pensais en écoutant l'intermède musical. Je ne pense pas quand même que cette amitié soit allée jusqu'à la folie amoureuse de Tristan et d'Iseux. Mais il est indéniable que quand on lit les lettres d'Anne d'Autriche à Mazarin, on est troublé parce que ce n'est pas des lettres d'une reine à son ministre. Je ne crois pas du tout que les choses soient allées où on peut imaginer, mais je crois qu'il a réussi très habilement à prendre un grand ascendant sur elle.
On parle d'un mariage secret ?
Non. Il était cardinal. Il n'était pas prêtre, c'est vrai. Mais si... On connaît des cas de cardinaux qui se sont mariés, mais ils ont dû renoncer au cardinalat. Et le cardinalat, c'était tout pour lui. Un cardinalat, ça vous fait prince de l'Église. Or, à la différence de Richelieu, Mazarin n'était pas grand-chose socialement. S'il perdait ce titre de cardinal, il perdait sa situation sociale. C'était très important d'être cardinal à cette époque. Et le pape l'aurait su, et comme le pape n'aimait pas la France à ce moment-là, non, ils n'ont pas pu se marier. Ce qui ne rend que la chose que encore plus troublante, parce que s'ils n'étaient pas mariés, et je ne crois pas qu'ils l'étaient, ils se sont quand même écrit des lettres extrêmement tendres.
Donc, à la mort de Louis XIII, Anne d'Autriche se fait accorder la régence du dauphin pendant 18 ans.
Oui.
Donc, ça a été une longue période de...
Oui, non, un peu moins de 18 ans, parce que Louis XIV avait 4 ans, n'est-ce pas, quand son père est mort. Et en fait, la régence des rois, la majorité des rois est à 13 ans. Mais vous avez raison d'allonger la période, parce qu'à 13 ans, ils sont majeurs, mais en nom, pas en fait.
Ce fut un personnage historique attachant pour vous, pour l'investigatrice historienne que vous êtes.
Mazarin ?
Anne d'Autriche.
Ah oui.
Un personnage féminin intéressant.
Très intéressant. D'abord, ce revirement politique de sa part, qui est quand même très extraordinaire. Le méchant cardinal Le Ray, dans ses mémoires, dit qu'elle était bête. Mais pas du tout. Elle est très intelligente pour avoir compris qu'il fallait absolument que la France triomphe de l'Espagne, ce qui a dû être cruel pour elle, puisqu'elle était espagnole. Mais je crois qu'outre l'influence de Mazarin qui lui dictait la politique, il y a quelque chose qui explique le revirement profond de cette femme, c'est qu'elle a été mère très tard. Vous savez, on craignait même qu'elle n'ait pas d'enfant. Et quand elle a eu Louis XIV, c'est devenu absolument tout pour elle. Et en lui parlant du petit roi, Mazarin pouvait tout obtenir. Il lui disait, vous devez faire ça pour le roi, votre fils. Elle était tout d'un coup la mère du roi. Ça a changé toutes ses perspectives.
Alors, expliquez-nous, Claude Dulon-Saint-Denis, votre attachement par rapport à cette période de l'histoire de France. Pourquoi ? Est-ce dû à un hasard ou est-ce dû à une sensibilité ?
Eh bien, comme tout le monde, j'ai lu Alexandre Dumas, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, figurez-vous qu'il y a quand même un souvenir plus personnel. Au concours d'entrée à l'école des Chartes, j'ai eu comme sujet la Fronde. Et j'ai eu 18. Alors...
J'ai gardé un attachement inouï
à cette période qui m'a permis d'entrer à l'école des Chartes. Et puis, oh oui, c'est une période très amusante, les mousquetaires. C'est amusant, pittoresque, et en plus, c'est les débuts de la monarchie absolue, c'est-à-dire d'une période politique très particulière en train de se faire. Et puis la littérature de cette époque, merveilleuse, enfin... Quand on pense au nombre d'écrivains de cette époque, Corneille, Racine, c'est fantastique, c'est une grande époque, vraiment. Le théâtre est merveilleux.
Alors donc, tout ce travail d'investigation, de recherche pour l'authenticité de tous les documents que vous citez, de tous les discours, les phrases que vous citez, de tous ces personnages, tout ce travail d'investigation, dans ce travail, quelle est la part d'intuition ? Quelle est la part de subjectivité ? Est-ce qu'un historien est sans cesse objectif ? Est-ce possible ?
C'est difficile. C'est difficile. Bien entendu, on ne part pas de rien. On peut pas... Enfin, il y a des gens qui se lancent dans un livre d'histoire à partir de zéro, mais je ne les considère pas comme des historiens. Mais quand vous avez une formation, vous savez comment il faut procéder. Bon, bah c'est très simple. Il faut d'abord lire tout ce qui a été déjà publié sur le sujet. Et là, vous voyez très vite ce qui cloche. Vous voyez très vite où il doit y avoir une erreur en comparant les différents livres. Et après ça, il faut aller revoir les textes à la source et vous vous rendez compte que même en citant des lettres d'époque, c'est pas facile à lire l'écriture d'Anne d'Autriche. Eh bien, je me suis rendu compte que quelques lettres d'Anne d'Autriche avaient été publiées par des historiens antérieurs et ils avaient fait des fautes de transcription. Ils n'avaient pas pu lire certains mots, ils avaient mis un mot pour un autre. Ça changeait le sens de la phrase.
Tout à fait. Et donc, par rapport à un autre ouvrage que je souhaiterais que nous évoquions pour cette fin d'émission, La vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle. Alors, nous revenons... Autre grand personnage de l'histoire... quelques mots pour définir cette vie quotidienne. Est-elle très différente de celle qui se vit aujourd'hui à l'Élysée ?
Je pense, oui, parce que c'était un événement inouï, l'entrée du général de Gaulle à l'Élysée. Il a fallu la guerre d'Algérie et tout ce drame où la France a failli s'écrouler pour qu'on le rappelle et qu'il revienne. Et puis, je n'ai jamais... puisque j'ai eu la chance de le rencontrer, je n'ai jamais connu personne qui ait plus l'air d'un roi. Vraiment, on avait l'impression d'être en face d'un souverain, au point de balbutier. Quand il vous adressait la parole, vous étiez là à dire « qu'est-ce que je vais répondre ?» Et puis cette taille démesurée, moi les rares fois où il m'a adressé la parole, je n'ai répondu que des bêtises. Et après je me disais « oh, j'aurais pu lui dire ça, mais on n'osait pas ».
Alors, si vous aviez quelques mots, quelques adjectifs à utiliser pour définir cette vie quotidienne aux jeunes générations qui nous écoutent, et ce seraient les mots intégrité.
Parlant de Gaulle lui-même, oh oui, l'intégrité absolue, alors ça, c'est même à peine croyable, n'est-ce pas? Il éteignait à l'Élysée, en quittant une pièce, il éteignait les lumières derrière lui, comme s'il n'y avait pas eu... Mais vous savez, c'est une vieille tradition de bourgeoisie française que moi, j'ai encore connue chez mes grands-parents, par exemple. Toute sa génération était comme ça. La bourgeoisie provinciale du Nord, il tenait beaucoup de son milieu. Milieu, son père professeur, pauvre, digne et pauvre, petite noblesse. C'est toute une classe qui probablement d'ailleurs existe encore. Mais il était très marqué par son milieu.
Vos échanges avec lui ?
Ah ben mes échanges avec lui, je n'ai jamais pu lui dire deux mots intelligents, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Mon mari avait des échanges avec lui, puisqu'il a été ministre du général à un moment, alors lui pouvait lui parler. Mais avec les dames, comme il disait, le général avait un air un peu condescendant, vous comprenez. Il faisait le tour du salon et il vous disait un ou deux mots. Et un jour, il m'a fait ça. Et alors là, j'étais vraiment, ça a été la honte de ma vie. Il a fait son petit tour de salon, un dîner à l'Élysée. Et il m'a dit, madame, vous avez une jolie robe. Je suis restée sans voix et je n'ai compris qu'après le pourquoi. Alors j'ai répondu stupidement, oh mais elle n'est pas neuve, je l'ai déjà mise, on l'a déjà vue ici. Et le général m'a sorti, eh bien tant mieux madame, comme ça on saura qu'elle est à vous. Et à ce moment-là j'ai tout compris. Parce qu'on se faisait prêter des robes par les couturiers pour les grandes soirées à l'Élysée. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, ça se faisait. On vous prêtait des robes. Et il faut croire que le général l'avait appris et il détestait cette idée. Que les femmes de ses ministres aillent mendier des robes chez les grands couturiers, ça lui déplaisait profondément. Mais je n'ai compris tout ça qu'après. Alors finalement, ce n'était pas pour se moquer de moi. C'est-à-dire, vous avez bien fait de mettre une robe.
C'était un vrai compliment. Vous vous lanciez dans un autre travail d'investigation ? Dans
oui,
l'histoire.
Enfin, en ce moment, je ne veux pas trop en parler parce que c'est encore loin d'être fait. Mais vous savez, j'ai beaucoup étudié les financiers du XVIIe siècle parce que c'est une grande époque, mais qui n'a pas eu du tout les moyens de sa politique. La politique financière était absolument stupide. Vous me direz qu'il n'y avait pas non plus de grandes banques comme la Banque de France. Et alors j'ai fait d'ailleurs récemment un livre sur des banquiers de cette époque et maintenant je vais poursuivre un peu dans cette voie car j'ai oublié dans ce livre sur les banquiers de parler d'une chose très importante, de leur collection. Car c'est une époque où on a beaucoup collectionné au XVIIe siècle et je me dis que ça c'est après tout la façon la plus agréable de dépenser son argent. Et je travaille en ce moment là-dessus. Mais c'est long, alors là c'est encore plus long que sur autre chose parce que tous les tableaux ont été copiés des dizaines de fois. Alors, il ne faut pas se tromper sur ce qu'ils avaient. Était-ce un original ou une copie ? Et je ne veux pas me faire traîner dans la boue par les historiens d'art.
Donc, c'est un travail de longue haleine ?
Oui.
Et vous, c'est un travail que vous menez en solo, en solitaire ou
Comment
travaille l'historien, là ?
Oh, en solitaire. Sauf que tout de même, pour certains domaines, il est impossible de le faire en solitaire. Par exemple, tous les actes, tous les recueils d'actes des rois de France, est-ce que vous savez que ce n'est pas encore publié ? Il y en a quelques-uns qui sont publiés. Alors ça dépasse les forces d'un seul chercheur, même s'il vit très longtemps. Alors pour ce genre de choses-là, qui sont en plus assez ennuyeuses à faire, de recopier des ordonnances, alors là, il y a des groupes de travail au CNRS, mais c'est très lent quand même. Et il y a quelques publications. Mais pour les choses individuelles, les biographies, il n'y a rien de tout ça, il faut travailler tout seul.
Métier d'historien, métier passionnant ?
Passionnant. Pour moi, en tout cas, passionnant.
Claude Dulon-Sainte-Nie, merci d'avoir partagé ces 50 minutes avec nous sur Canal Académie. Merci.
Merci à vous.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.